Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment retourner à l'université.
J'ai pas réussi à rendre tous les DM.
Moi, je suis vite distraite.
T'as rien oublié. Effaceur, Tipex, ton goûter, t'as ton goûter.
C'est-à-dire que le plus beau cadeau qui nous a été fait depuis qu'on est petit, c'est...
La cour d'honneur.
J'ai aussi écrit un courrier au président de la République, parce qu'on sait jamais. Hein.
Ça va tout changer, parce qu'en plus, j'habite à Paris.
J'attends, est-ce qu'il y aura un autre confinement, et est-ce que je vais pouvoir travailler.
90% du temps était dans sa chambre, sur son lit. Où,
J'ai foulé le sol de la cour d'honneur pour la première fois. J'ai pas été impressionnée.
S'il tressaille, on frissonne.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Cour d'honneur, saison 3, épisode 1, premier épisode de la saison. Une émission de la bande Radio Sorbonne diffusée sur Radio Campus. Bienvenue, on t'accueille dans notre amphi ici, pas de TD, rien que des DM. Oui, n'hésite pas à nous contacter sur les RS, RSU est là pour toi qui galère à trouver ta salle, toi qui galère à trouver des potes, toi qui galère à trouver un bar, à trouver une meuf. On connaît tous les meilleurs plans de la rive gauche, les meilleures histoires qui se racontent au Crous, les meilleures façons de gruger le métro et toutes les terrasses encore ensoleillées pour te prélasser, même à la rentrée. Ensemble, pendant une heure, la radio étudiante de la plus vieille Fac de France sur la première radio étudiante de la capitale. Et pendant une heure, on te promet de la culture.
Leclerc entra aux Invalides avec son cortège d'exaltation dans le soleil d'Afrique. Entre ici, Jean Moulin, avec ton terrible cortège.
Il y aura aussi des rumeurs, bien sûr.
She really did some job, man. You know how fucking nuts you are. What she did to you?
You fuck my wife.
What?
You fuck my wife.
Du love pour les plus chanceux.
Ça va les enfants? Ça fait longtemps que je les ai pas vus.
Oh, j'en ai marre en ce moment des enfants. Michael, lui, ça va toujours. Mais Kevin, oh, écoute. Oh, je n'en peux plus, il ne cherche qu'à me contrarier. Tu sais ce qu'il m'a fait mercredi? Une otite.
Et du style, bien sûr, avant.
Moi, j'avais pris plein de notes en venant dans votre formation. Non, j'aurais pas le temps, je le sais déjà que j'ai pas le temps. Ouais. J'ai juste le temps de me mettre en colère.
Est-ce que vous voulez commencer maintenant?
Non, c'est le système de l'information française qui fait comme ça. J'aurais le temps, une minute, de m'énerver. Juste de m'énerver et de paraître pour un petit merdeux et un petit jeune de plus qui fout la pagaille partout.
Voici notre promesse avec une équipe bien déterre pour vous servir. Bonsoir, Abel.
Bonsoir Thomas, bonsoir à tous. Cette année, je vous présente l'édito, les conseils pour survivre à la Sorbonne.
Excellent, on a hâte de recevoir tes conseils. Laudine est avec nous également. Bonsoir Laudine.
Salut Thomas, ce soir, je vous ai fait un petit reportage sur les galères de la rentrée.
On a tous connu ça. Marine aussi fait sa rentrée sur Cour d'honneur. Bonsoir Marine.
Salut Thomas, ce soir, je vous propose une interview de Yann Migoubert.
Yann Migoubert, célébrissime Yann Migoubert. On accueille une petite nouvelle dans le studio de Cour d'honneur ce soir. Bonsoir Mélina.
Bonsoir Thomas, ce soir je vous présente la nouvelle chronique de poésie contemporaine.
Et on hâte de découvrir ça cette saison. Il y aura également dans cette émission Cilia et Juliette qui ne sont pas avec nous en plateau ce soir mais que vous entendrez avec nous. Un invité spécial également, ancien étudiant de Sorbonne Université devenu journaliste sportif. Il nous racontera la Coupe du Monde de rugby puisqu'il a fait partie de l'équipe de Sorbonne Université et de son premier livre publié. Tu es ici chez toi, alors installe-toi, prends place. Le décollage est imminent. Et du haut de l'amphi, au fond des chambres de bonne, bienvenue dans la cour d'honneur de la Sorbonne. Et pour bien commencer, on se met dans l'ambiance avec la carte blanche, l'édito de RSU.
Faire peur aux bourgeois, eh bien c'est leur seule façon de montrer qu'ils existent.
Là, c'est vraiment possible.
Carte blanche.
Et c'est Abel qui ouvre le bal ce soir.
Le premier édito de l'année, et je suis évidemment honoré de la tâche qui m'incombe. Alors pour cette chronique, je vais essayer de vous être utile. Car oui, on est en septembre, c'est la rentrée à la fac, et que vous en soyez à votre troisième L1, on ne juge pas, ou que vous terminiez votre master, la rentrée à la fac, ça peut toujours être perturbant. Surtout si vous sortez toujours tout juste du bac. Alors félicitations, vous avez gagné le droit aux 4 conseils de la rédaction RSU pour survivre à la Sorbonne. Premier conseil, repérez en avance les campus. Sorbonne Université, c'est des dizaines de campus dans toute la France, la plupart dispersés partout dans Paris. Clignancourt, Malesherbes, Marie Curie, Jussieu, la Salpêtrière, Sorbonne Mer, l'Institut de Géo, l'Institut d'Archéologie, l'Institut de la Vision. Attendez, on a un Institut de la Vision. Bref, essayez dès l'inscription de centraliser le maximum de vos cours dans le même campus. Ça vous évitera des allers-retours en pleine journée, sans que cela vous empêche d'aller les visiter, même si vous n'avez pas cours dans un campus. prenez le temps d'aller le voir. Vous y découvrirez peut-être une BU qui vous plaît, un Crous moins pire que les autres, ou peut-être un nouveau quartier. Et puis je vous assure, ça vous fera du bien de vous rendre compte que votre université n'est pas juste un bloc de béton posé à une porte de Paris. Mais c'est aussi des campus historiques, multicentenaires, qui sont chargés d'histoire. Et puis si vous vous êtes trompé et que vous deviez faire votre rentrée au labo d'études de biologie marine de Roscoff, eh bah attendez novembre et on vous y emmène pour une émission exclusive. Deuxième conseil, intégrer une asso. Une fac, c'est des cours, ok, ça on a compris. Mais c'est aussi une vie de campus qui passe au travers d'associations étudiantes, BDE, projets artistiques, théâtre, sport, journalisme, cinéma. Voici une liste non exhaustive de ce que vous pouvez faire en intégrant une association étudiante. Alors foncez au forum des associations de vos campus, le 20 à Clignancourt, le 26 à Malesherbes, le 29 à Champollion, et laissez-vous tenter, vous y trouverez peut-être une future passion. Regardez, moi, il y a un an, j'étais une âme perdue qui traînait ma peine au forum des assos du campus de Clignancourt. Quand soudain, une lumière dans la nuit, un phare dans la tempête, une modeste table, un kakémono, deux bénévoles souriants, RSU, Radio Sorbonne Université. Et voilà, j'étais sauvé, une passion était née. Alors je vous raconte pas tout ça pour déballer ma vie. Juste aller adhérer à un projet associatif. Ça vous ouvrira à d'autres horizons. Toujours un plus pour les études. Vous aidera à faire passer l'année plus facilement. Toujours difficile quand on est étudiant. Et puis, vous y rencontrerez des futurs copains pour entretenir votre vie de jeune parisien. Troisième conseil, trouvez une bonne BU. Sainte-Barbe, Sainte-Geneviève, BNF, BU de Jussieu, de Malesherbes, la BPI et j'en passe. Paris regorge de bibliothèques universitaires ou publiques. Certaines magnifiques comme Sainte-Geneviève, d'autres très pratiques et bien équipées comme la Bise de Sorbonne-Mer. Donc, pour ceux qui n'arrivent pas à bosser chez eux, c'est le bon plan. Pour commencer, il y en a partout dans Paris. Très pratique. Et puis, vous avez accès gratuitement à des milliers de références en livres, documents, archives. Ensuite, et ça c'est pour les gens comme moi, qui n'arrivent pas à se concentrer facilement chez eux, travailler dans une bibliothèque entourée de livres, avec tout le monde autour qui bosse en silence, ça met dans une ambiance de travail, on a envie de se plonger dans son devoir sans jamais s'arrêter. Pour finir, un petit tips cadeau. Si vous prévoyez une longue session de travail, choisissez une bibliothèque loin de chez vous. Comme ça, quand vous y êtes, vous vous dites « je pars pas avant d'avoir tout fini, je me suis pas tapé 45 minutes de métro pour partir au bout d'une heure ». N'oubliez pas, la BU de Sainte-Barbe vient d'agrandir 500 mètres carrés pour accueillir un café pour les étudiants. Et le dernier conseil, regardez vos avantages sur votre ENT. Vous saviez qu'en tant qu'étudiant à Sorbonne Université, vous aviez le droit de regarder des films gratuitement, une sorte de Netflix personnel, ou d'avoir accès à la presse nationale, ou à des sites d'archivage gratuitement, ou de trouver des jobs étudiants dans le cinéma et de passer en priorité, de consulter gratuitement des ouvrages de la presse universitaire, de la fac, et de vous faire prêter du matériel informatique. Il y a même des annonces d'appart, et pas ceux du Crous promis. Bref, la fac ne communique pas dessus, et vu comment l'ENT est fait, il faut fouiller. Mais je vous assure, depuis votre compte perso, vous avez accès à des dizaines de services payants gratuitement. Bref, je crois que c'est l'essentiel de ce que je pouvais vous dire. Pour le reste, restez accrochés, je sais que c'est dur mais ça en vaut la peine. Et le reste, vous le découvrirez vous-même, de toute façon, je ne vais pas tout vous spoiler. En tout cas, bonne chance et à dans 2 semaines.
Et oui, effectivement, il y a plein de bons conseils dans ce que tu as dit. Moi, mon premier stage, c'était grâce à l'ENT que je l'avais trouvé. On a oublié des conseils autour de la table. Là, c'est qu'est-ce que vous donneriez à un étudiant qui arrive à la Sorbonne comme petit conseil pour s'intégrer, Mélina, Marine, Claudine, mais Marine ?
Ah bah la revue, les conseils de Abel étaient plutôt clairs, exhaustifs. Hein.
Merci. On la sortira de l'émission, on la mettra en podcast indépendant, comme merci. Ça ils pourront nous réécouter. Non, effectivement, moi j'allais travailler toujours à la BU aussi, parce que impossible de travailler chez moi. Je ne sais pas, vous autour de la table, où est-ce que vous travaillez le mieux, le plus efficacement ?
Ouais, pareil, idem, bibliothèque, sans distraction. Chez soi, c'est beaucoup trop dangereux.
Ouais, beaucoup trop de tentations.
C'est pour ça que j'ai pensé à ce conseil, parce que c'est joli. Et puis, si vous allez travailler à la BIS de la Sorbonne, ça donne quand même envie de travailler l'endroit, l'ambiance, les livres.
Puis le café est tellement mauvais en bas que de toute façon, rapidement, vous arrêterez les post-clopes.
Voilà, et cher. Et
en plus, il est un peu cher, c'est vrai. Non, Lodine, toi, tu travailles mieux chez toi ?
En général, moi, je travaille chez moi. Après, la BU, je conseillerais les petites BU du FR parce que je trouve qu'elles sont plus intimistes. J'aime pas trop la BIS, moi, perso. Je trouve qu'elle est un peu froide.
ou si vraiment on n'a pas la motivation, aller dans les cafés aussi. Parce que c'est un peu... C'est moins sévère que la BU et tu peux quand même bien taffer.
Ouais, c'est vrai que moi aussi, les cafés, c'est là où je lis. En revanche, parce que si je lis chez moi, je m'endors très rapidement. Parce que je suis trop calé et tout, et du coup je m'endors sur mon livre, mais dans les cafés je m'endors pas, effectivement. Et oui, les petites UFR, il faut pour cela se perdre dans les couloirs de la Sorbonne pour tomber par hasard sur la bibliothèque de l'UFR de Philo, par exemple, qui est un peu nichée dans une aile, mais pour ça, bah voilà, il faut se perdre, c'est justement le sujet du reportage.
C'est sans doute l'une des informations les plus capitales de ces dernières années.
Il est 20h, Moustique arrive à son bureau, et là, c'est le drame.
À 20h10, dans Cours d'honneur, le reportage s'intéresse à votre rentrée. Cette semaine, les étudiants ont découvert la Sorbonne, entre ceux qui ont été chouchoutés en prépa et qui découvrent la vraie vie, ceux qui étaient en L2 à Malesherbes et qui découvrent le 5e arrondissement, alors ceux de Clignancourt qui débarquent rive gauche. Je vous en parle même pas. Bref, Laudine, c'est peu dire que c'était un peu la galère cette semaine pour certains.
Oui, Thomas. Qui ne s'est jamais perdu dans les couloirs interminables et les passages quasi secrets de la Sorbonne ? On dirait Poudlard. Parcouru par 50 000 étudiants un peu paumés, comme Louane, arrivé très tôt pour son premier jour en M1, l'EMEA.
Bon, en fait, c'était à 9h et je suis arrivée à 8h30 parce que j'étais un peu stressée, j'avais peur de pas trouver la salle. Mais heureusement, je connaissais quelqu'un qui m'a aidé et qui m'a montré où c'était. Mais sinon, je pense que c'est vrai que c'est très compliqué, autant quand on est français qu'étudiant international, de trouver son chemin ici, dans ces grands bâtiments un peu... avec beaucoup de couloirs.
Même combat pour Jali, en L3, l'EMA, qui est parvenue à trouver sa salle avec un peu d'aide, elle aussi.
Il y a un compte Insta de notre licence, l'EMA Situation, on est en licence l'EMA, qui a fait une story à la une qui expliquait comment on devait se repérer ici en tant que L3. Et elle avait précisé de venir plusieurs heures à l'avance, sauf que moi j'ai trouvé que c'était abusé de venir plusieurs heures à l'avance. Donc je suis venue un petit peu à l'avance histoire de trouver mon amphi. Je suis allée dans les couloirs, je me suis bien bien perdue.
Tout le monde n'a pas eu la chance d'arriver à temps. Colline, pour son premier jour, a bien galéré elle aussi.
J'ai eu des cours ce matin, mais j'avais pas l'heure de moi à rentrer. Du coup, je les ai ratées, mais là, je vais avoir des cours cet après-midi. Bon, parfois, il y a des allers-retours entre les gens ils nous disent d'aller à un endroit, après, ils nous redisent d'aller à l'autre, mais bon...
Les seuls conseils fiables sont ceux des hommes en jaune. Vous les avez peut-être croisés dans les couloirs, les bénévoles de la Sorbonne. Comme Mehdi, présent pour nous aider et lui-même un peu dépassé.
Même moi, je pourrais me perdre dans ça, même avec des conseils. En fait, il y a tellement de salles, il y a tellement de numéros, il y a tellement de... Et puis surtout que l'escalier E, il guide pas aux salles E. Moi, je conseille alors de décaler d'un cran à chaque fois. Par exemple, l'escalier F, c'est pas du F, mais c'est du G.
Évidemment ! Et ça, c'est encore quand on est sur le bon site.
J'ai eu plein de gens, je suis un peu triste, qui sont arrivés et qui étaient sur le mauvais campus. C'est-à-dire que j'ai dû expliquer à des gens qu'ils n'allaient pas avoir cours ici, mais à Clignancourt. Bah, il faut se dire que les L1, L2, ça sera toujours dans les campus Clignancourt ou Malesherbes ou les autres, Michelet, Cordeliers. Et la dernière année de licence, elle sera ici.
Une fois l'épreuve des couloirs franchie, reste l'étape administrative, qui est un vrai parcours du combattant.
Le problème, c'est que comme c'est administration française, il faut toujours venir sur place. Parce que par téléphone, déjà, soit ils vous prennent de haut, soit ils vont dire « Oh, il y a des gens qui sont sur place, ils ont vraiment besoin d'aide, on va les aider en premier. » Donc vous ne serez pas la priorité. Si vous venez sur place, vous serez la priorité. Mais il ne faut pas le dire à tout le monde. Hein.
Avis à tous ceux qui vont continuer à galérer ces prochaines semaines, votre repère, votre guide, votre phare dans la nuit se trouve juste en face de la fac, assure Mehdi.
D'ailleurs, j'invite chaque étudiant à venir à Champollion pour chaque problème parce que c'est le siège de la vie étudiante. Champollion, c'est le bâtiment qui est en face de Sorbonne-Mer. C'est le premier bâtiment gréagé à côté du Crous. Et c'est le siège de la vie étudiante. Et donc, si vous avez un problème, vous y allez, vous entrez, vous leur dites votre problème. Il faut voir Sophia Richard, c'est la directrice de la vie étudiante. Et sinon, par exemple, les gens qui ont des problèmes, pour reprendre des notes et tout, faut aller voir l'accueil handicap. Ils aident aussi, voilà.
Et pour tout le reste, il y a RSU.
Et effectivement, les associations Premier Repère dans ta fac, cette semaine avaient lieu les premiers forums des assos. On sera présent au prochain, on vous dit tout un peu plus tard dans l'émission. Et alors vous, autour de la table, il ressemblait à quoi vos premiers pas dans la Sorbonne ?
Moi, je me suis fait engueuler par des mecs de la sécurité parce que je cherchais ma salle, c'était en E quelque chose. Et je trouvais pas l'escalier E, mais en fait, il n'existe pas, je crois. Il est sur la, une part, c'est au bout de la passerelle. En plus, c'est au bout d'une passerelle de la cour Cujas, mais du coup, j'entre par entrée Cujas, parce que c'est cour Cujas, je me dis c'est à côté, c'est pas à côté. Et puis je me dis, ok, il y a l'escalier I, dans l'alphabet, c'est pas loin de F. Je monte et je trouve. Et en fait, c'était que des bureaux. Et donc, il y a des mecs qui m'ont dit, mais tu fais quoi ici? Je dis, bah, je cherche. Ils m'ont dit, mais non, c'est pas du tout ici. Du coup, ils m'ont raccompagné. Mais genre, je devais faire l'alphabet dans ma tête pour juste me dire, ok, est-ce que G, c'est à côté de F? Ok, peut-être si je vais à G, je vais trouver F.
La légende raconte qu'ils cherchent encore. Vous, les filles, ça allait au début, non? Mélina, t'as eu un peu de mal?
Non, bah, ça s'est très bien passé.
Ouais.
Sauf une fois où je me suis trompée sur campus. Ça, c'est un classique.
Ça arrive. C'est vrai que c'est pas évident, hein, la Sorbonne. De se dire, oui, je suis à la Sorbonne, mais en fait, je vais pas avoir cours à la Sorbonne, je vais avoir cours à Clignancourt. Marine, Lodine?
Alors, moi, je trouve le bon campus, mais c'est tout. Après, je suis complètement perdue. Parfois, je errais des heures et des heures dans la cour d'honneur sans savoir quel escalier il fallait reprendre, ou même une fois que l'étape escalier était franchie. Des fois, il y a des petites subtilités où la salle n'est pas au fond du couloir, il faut retourner. Enfin, je me disais, mais ça, c'est pas possible, en fait. C'est une sorte d'élimination naturelle des étudiants, ce truc. Ouais.
C'est vrai, ouais, ça fait un peu Poudlard.
Moi, je sais que j'allais tout le temps à l'accueil. Et à chaque fois, il me redonnait un plan avec un petit dessin, ce qui fait que j'ai accumulé une dizaine de plans chez moi. Et ouais, à force de tourner en rond, on finissait par trouver, mais bon.
C'est vrai que c'est pas évident. Vous écoutez Radio Sorbonne sur Radio Campus. Elle a enflammé la cigale, c'était la semaine dernière, après avoir fait le tour des festivals cet été. Si vous n'avez pas eu l'occasion de l'avoir foncé, c'est Juliette Armanet dans Cours d'honneur, qu'importe.
Sans foi dans nos têtes, par tous les temps, les vents, tous les cerfs volants, envoyés, envolés, les ailes arrachées obstinément. T'avais aimé mon image, mage, la pluie sur mon visage, nos cœurs à l'aventure, scellés dans l'or pur, tu m'as blessé, lassé, accroché, accroché, tu m'as aimé.
Qu'importe, Juliette Armanet, issue de l'album Brûler le feu, c'était en 2021. N'oubliez pas que dans la vie, il y a des hauts, il y a des bas. Maintenant, place au débat.
Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre.
On vous le disait, ce début d'année peut être un peu effrayant pour qui débarque dans la capitale, immense, à Sorbonne Université, grouillant, dans une licence ou un master dont le projet professionnel peut être encore un peu flou. Alors si vous voulez vous intégrer et participer à la vie de campus, les associations étudiantes sont là. On vous a demandé si ça vous intéressait de vous engager dans la vie étudiante en rejoignant une association.
Oui, je pense que j'aurais envie, bah, déjà pour m'occuper. Moi, je sors de classe préparatoire, donc je pense qu'au niveau du volume horaire, je vais avoir du temps pour faire tout ça. Et puis j'aimerais bien, moi, dans les associations, s'il y a des associations d'aide, soit les élèves, aider les personnes en difficulté, en handicap.
C'est ma dernière année probablement à la Sorbonne, donc je me dis pourquoi pas. Et aussi, ça fait participer la vie collective de tous les étudiants de la Sorbonne, donc je trouve ça plutôt cool, quoi.
Moi, ça m'a jamais vraiment intéressé parce que ça demandait du temps que je voulais utiliser autrement, que je voulais utiliser dans ma vie perso.
Moi, j'ai déjà pas mal d'activités en plus, genre culturelles et sportives. Et du coup, je pense que ça me prendra encore plus de temps.
Moi, j'ai déjà fait beaucoup d'associatifs dans mes anciennes études. Et je trouve aujourd'hui que j'ai envie d'avoir plus de temps pour justement bien bosser, bien tout ça, parce que parfois, ça peut être un peu chronophage.
Je pense que oui, ça apporte déjà des rencontres avec des gens. Et c'est aussi bien à la fac de ne pas avoir que le côté scolaire et de pouvoir approfondir d'autres sujets.
Effectivement, mettre sur le CV, c'est toujours intéressant de montrer qu'on a une expérience peut-être managériale, ça dépend des associations et du poste qu'on a dans l'asso. Mais il y a plein de choses à faire. On peut faire de la communication, on peut faire des articles de journaux, enfin des choses comme ça. Et je pense que c'est assez varié pour trouver son compte au final.
Alors, autour de la table, la vie associative étudiante, c'est une perte de temps ou c'est un vrai investissement ?
Ah, bah, comme je l'ai dit dans mon édito, mais non, mais c'est. Je pense que ça. Enfin, si vous avez aucun temps personnel, vraiment concentrez-vous sur vos études, évidemment, mais. Je pense que ça ouvre des portes et que si vous avez envie d'aider, vous allez vous sentir utile. Si vous avez envie de danser, de chanter, vous allez. Mmh. Et en plus, c'est gratuit. C'est des associations étudiantes, c'est pas un club ou un truc à l'extérieur, donc profitez-en.
C'est vrai que ça peut être un peu chronophage, non ? Sur la table, il y en a qui ont raté leur année d'études à cause de l'asso dans laquelle ils s'étaient investis. Marine.
Pas raté, mais c'est vrai que ça prend un temps considérable. Après, ça apporte plein d'autres choses formidables sur le plan humain, sur plein de compétences. Juste même ne serait-ce que être capable de trouver des points de concession avec les autres. Enfin, plein de choses en fait qu'on n'apprend pas du tout quand on est juste assis à recevoir un cours. Mais après, c'est vrai que ça prend beaucoup de temps. C'est peut-être le point négatif, c'est que parfois, c'est beaucoup, beaucoup d'énergie investie sur des résultats qui viennent... au fur et à mesure, ouais. Parfois un peu ingrat, quoi.
Ouais, c'est peut-être plus difficile de sentir concrètement ce que ça nous apporte, alors qu'on donne énormément. Mais bon, ça peut venir plus tard, ce que ça nous apporte. Non, Lodine, Mélina, la vie associative étudiante, même lycéenne, quand vous étiez plus jeune, je ne sais pas si vous étiez arrivée à être engagée.
Alors, moi, je me suis engagée vraiment une fois que j'étais à la Sorbonne, parce que je trouve qu'il y a beaucoup plus d'associations que là où j'étais, à Poitiers, il n'y avait rien du tout. Mais par contre, je pense qu'à partir du moment en fait, où c'est ta passion, t'as pas l'impression de mettre beaucoup de temps. Ou en tout cas, tu mets beaucoup de temps, mais c'est pas un désagrément. Parce que justement, c'est quelque chose qui t'intéresse.
C'est vrai, tout à fait. Vous êtes toujours dans Cours d'honneur de Radio Sorbonne. Sur Radio Campus Paris, on parle de la vie étudiante et de l'actualité des étudiants.
Tout le monde ne peut pas devenir un grand artiste. Mais un grand artiste peut surgir n'importe où.
Il n'y a aucune raison logique pour qu'il y ait moins de talents créateurs au XXe siècle qu'au XVIIe.
À tout seigneur, tout honneur, on ne pouvait pas commencer cette nouvelle saison sans inviter le parrain de la radio, celui à qui on doit la renaissance de Radio Sorbonne. Marine, tu reçois Yann Migoubert aujourd'hui.
Oui, tout à fait, Thomas. Notre invité de ce soir occupe une place toute symbolique pour Radio Sorbonne. Agrégé de lettres classiques, il est docteur en études grecques et a notamment soutenu une thèse de philologie sur l'histoire du texte d'un pastiche animalier de l'Iliade, Le combat des rats et des grenouilles. Enfin, il est aussi et surtout chef du service culturel de l'Université Paris-Sorbonne et parrain de la radio. Yann Migoubert, bonsoir.
Bonsoir.
Nous sommes ravis de vous recevoir pour l'émission de rentrée de Cours d'honneur. Rentrée qui a justement été la réalité partagée par un bon nombre d'étudiants de la Sorbonne en ce début de semaine. Pour bien commencer l'année, est-ce que vous auriez un conseil de rentrée à partager aux étudiants ?
Alors, à vous écouter, d'abord merci de me recevoir. À vous écouter, j'ai un conseil là tout de suite de ce que j'entendais tout à l'heure, c'est que attention, quand vous voyez F300 et quelques, c'est pas du tout l'escalier, c'est l'étage. F, c'est étage 1, G, étage 2, etc.
Évidemment.
Après, c'est clair que les numéros de salle dans la Sorbonne, c'est n'importe quoi. Voilà, ça c'est clair. Donc ça, c'est mon premier conseil. Hein. Évidemment, en tant que responsable directeur des affaires culturelles, bah, évidemment que je ne peux que vous conseiller de participer à nos programmes culturels, parce qu'en réalité, ils vous enrichissent vraiment. Je suis d'accord avec ce qui a été dit auparavant hein, sur l'engagement ou simplement le fait de faire autre chose à côté de ses études. Parce qu'effectivement, soit on a des activités en dehors et on est totalement équilibré, enrichi, etc. Et là, il n'y a pas de problème. Mais si on se concentre uniquement sur ses études et qu'on loupe ce côté vie étudiante, vie culturelle, vie sportive, eh ben, en fait, on est déséquilibré. Déséquilibré à la fois dans, on va dire, sa vie personnelle, simplement, mais aussi on se met des petites barrières dans le cadre de sa vie, quoi, de ses futurs projets, de ses amitiés, parce qu'on se fait beaucoup d'amitiés quand on participe à une association, à un atelier de pratique artistique. Nous, à la direction des arts culturels, on organise une dizaine d'ateliers de chorale, de musique, de théâtre, plein de théâtre, etc. À côté, vous avez des activités qui sont sur le campus Pierre et Marie Curie à Jussieu, à la Salpêtrière. Vous avez des tonnes d'activités qui sont toutes recensées d'ailleurs sur une plateforme qui s'appelle Plateforme des activités. Donc tout le monde va se connecter, se loguer là-dessus et prendre à la fois son cours de sport, son cours de culture, enfin, sa, chorales, etc. Mais voilà, donc on peut proposer ça aux étudiants quand même. On peut proposer des tonnes de places dans des lieux magnifiques de la capitale. Hein. On offre gratuitement des places à l'opéra, à la philharmonie, à la comédie française, dans plein de théâtres à Paris et en banlieue. Donc voilà, l'offre, elle est tranquille. Mais je ne veux pas vous mobiliser parce que sinon...
Elle est très variée. Et justement, alors merci beaucoup pour ces précieux conseils. Et justement, en tant que chef du service culturel... Quels sont les grands rendez-vous que vous avez programmés dans votre agenda culturel?
C'est très gentil de penser à ça. Écoutez, donc là, la semaine prochaine, mais je pense que ça va être un peu trop tôt mais pour l'émission, mais on a un événement très important avec une jeune artiste italienne qu'on parraine, justement. Vous savez que RSU, est né au sein d'un master qui s'appelle Administration et Gestion de la Musique. Et en réalité, un autre groupe d'AGM, comme on les appelle, s'occupe de promouvoir des artistes à l'international. Et là, on reçoit une jeune artiste qui s'appelle Giulia Rimonda, qui est dans une académie qui s'appelle Staufer en Italie, à Crémone. Et on la reçoit là, à l'amphithéâtre Richelieu, le jeudi 28 à 20h. Donc c'est gratuit et là vous allez vraiment avoir un événement. Sinon plus tard dans l'année, vous avez un grand festival qui s'appelle Livre en tête de lecture sonore avec l'association qui s'appelle Sorbonne Sonore qui est aussi un atelier de la direction des affaires culturelles. Et puis vous avez les grands événements du théâtre Molière-Sorbonne. On va jouer Les Précieuses Ridicules. Ça va être quelque chose d'incroyable parce que c'est en prononciation restituée avec des gestes de l'époque du XVIIe siècle. Et puis enfin, je vous conseillerais bien d'aller au Grand Amphithéâtre de la Sorbonne assister au chœur et orchestre voilà, qui va donner un super Mozart en décembre.
Bah écoutez, un programme assez varié. Alors justement, j'aime beaucoup les anti-conseils. Donc à l'inverse, quelle serait la meilleure manière pour vous de rater sa rentrée?
Rater sa rentrée?
Comment on fait pour rater sa rentrée rapidement et facilement?
C'est une très très bonne question. Bah, en fait, moi je dirais rater sa rentrée, ça passerait par ne pas croire en soi et aller aux études comme on va pointer. Oui, et c'est-à-dire se laisser être un mouton. Et en fait, c'est vrai que les études vous conduisent à ça. Vous avez des modules, vous avez des trucs comme ça. Donc, on peut très bien assister aux cours parce qu'il faut assister aux cours. On est à l'université. À l'université, on se prend en main et on s'intéresse à tout. Voilà. Donc, il faut mon conseil, c'est de cultiver sa curiosité, s'ouvrir, dévorer la culture, dévorer le savoir. Et ne pas croire que c'est des futilités, des choses qui ne vont pas vous servir. Ne jamais penser à l'utilité, mais penser à ce qui va vous nourrir. Voilà, c'est très important. J'ajoute que, petite parenthèse, vous avez dit j'étais agrégé, etc., de la classique, mais bon, j'ai perdu, entre guillemets, du temps à travailler dans une association qui s'appelait Demodocos, ici même, à la Sorbonne, et qui faisait du théâtre en grec ancien. Mais c'est parce que je faisais du théâtre en grec ancien, donc quelque chose d'a priori totalement inutile, que je suis devenu directeur des affaires culturelles. Parce que j'étais trésorier de l'association et je suis tombé à un moment où le service culturel de l'époque proposait des postes de professeur agrégé. Et j'ai postulé et j'ai été pris. Donc
par la passion, et le désir.
En fait, faites les choses qui vous nourrissent et qui vous grandissent. Et avec ça, vous réussissez. Voilà.
Et alors, toujours en termes de rentrée, est-ce que vous avez le souvenir d'une rentrée qui vous a particulièrement marqué?
Non, pas spécialement. En fait, toutes les rentrées se ressemblent. C'est-à-dire que, nous, on voit ça fait quand même beaucoup de temps que je suis là, malheureusement. Ou heureusement, parce que j'adore ce que je fais. Mais en vrai, les étudiants sont toujours les mêmes. Vous avez l'impression d'être différent parce que vous grandissez et c'est incroyable de vous voir mûrir entre la première année où vous découvrez. En fait, c'est vrai qu'il y a, un côté, tout à l'heure on a parlé de se perdre, etc., du labyrinthe. Oui, il y a un côté comme ça, mais à côté de ça, vous allez mûrir d'un seul coup. Entre la première et la deuxième année, c'est incroyable comme déjà vous vous prenez en main. Nous, on le constate à la direction des affaires culturelles parce que les premières années, en fait, ils prennent pas les activités culturelles, ils se concentrent sur leurs études, ils jouent petit bras, si je puis dire. Enfin, en tout cas, ils sont pas assez ouverts. Dès la deuxième année, hop, ils commencent, ils sont repérés, ils sont dans le bain, hop, ils choisissent leur truc. Et puis, on arrive au stade du master, où là, les étudiants, entre le début de l'année, où, parce que là, le master, on commence à avoir 21, 22 ans, c'est des moments hyper cruciaux dans la vie. Et parce que là, il y a tout, hein, il y a la vie amoureuse, la vie professionnelle, il y a tout qui se met en vrac. Et à ce moment-là, ouais, précisément, entre le début de l'année de master et la fin de l'année de master, vous n'avez plus les mêmes personnes en face.
Bah écoutez, merci pour cette analyse presque psychologique.
Ouais, ouais.
Et enfin, nous terminons toujours l'émission par la traditionnelle question.
Oh merde,
qu'est-ce que la Sorbonne représente pour vous ?
Ah bah. Et bah, la Sorbonne, c'est un patrimoine. Hein. Ça fait quand même 800 ans qu'elle existe. Et ça, pour moi, par exemple, si je reste à la Sorbonne en tant que directeur des affaires culturelles, c'est parce que je suis carrément fier d'écrire bah, voilà, 25 ans d'histoire culturelle d'une période qui a duré 800 ans. Voilà. Et ça, c'est, pour moi, ça, j'ai des étoiles dans les yeux quand je pense à la Sorbonne. Et quand j'en parle, je sais que les gens qui m'écoutent aussi voient cette passion.
Bah écoutez, merci beaucoup pour vos réponses.
Bah, merci à vous de m'avoir invité, c'est cool.
Et à bientôt alors. Merci Yann Migoubert, merci. Merci Marine. Dans Cours d'honneur, on accueille les petits nouveaux qui veulent faire de la radio et les nouveaux formats qu'ils nous proposent.
Je crois que la poésie sont des rêves de bonne qualité. C'est l'art de rêver et de faire rêver aussi.
Nous accueillons Mélina, notre poétesse du plateau cette saison, lauréate à deux reprises du concours de poésie de Sorbonne Université, qui fera sa rentrée dès la semaine prochaine avec notre toute nouvelle chronique axée sur la poésie contemporaine, poésie en Sorbonne. Mélina, est-ce que tu pourrais avant toute chose nous dire ce qui, selon toi, fait la poésie contemporaine aujourd'hui ?
Alors selon moi, la poésie contemporaine, c'est tout simplement la poésie qui est écrite aujourd'hui. Et c'est la seule définition à lui donner. Après, il est toujours possible de repérer certaines tendances que l'on retrouve dans plusieurs textes de poésie écrites et récités aujourd'hui, mais ça restera toujours des exemples non exhaustifs. On pourrait notamment mentionner ces tendances, l'association de la poésie contemporaine à d'autres disciplines artistiques, comme par exemple la création audiovisuelle, avec ce que l'on appelle les vidéopoèmes, avec la musique également, avec des soirées qui mélangent récitation de poèmes et techno, comme le fait le collectif Cargo, par exemple. Il y a aussi de plus en plus de poètes et de poétesses qui s'inspirent du rap et qui rappent leurs poèmes, comme l'hémophile, qui sera d'ailleurs notre première invitée dans deux semaines. Ou encore, par exemple, le stand-up, où le poète ou la poétesse joue sur l'ambiguïté de son texte et interagit avec son public, comme le fait, un autre exemple, Claire Isiardi dans son spectacle Sainte-Claire. La poésie contemporaine, c'est autant une production littéraire qu'une performance. Aujourd'hui, elle prend place dans les bars en suivant la tradition de l'open mic héritée du slam ou du rap, dans de très nombreuses revues à thème, en ligne et en librairie, dans lesquelles chacun, chacune peut se retrouver, mais aussi, et ça c'est ce qui est propre à la poésie contemporaine, de plus en plus sur les réseaux sociaux, Instagram notamment, avec l'Instapoésie et les Instapoètes.
Et alors dans ta future chronique Poésie en Sorbonne, qui reprend le nom du recueil annuel de poésie de Sorbonne Université, comment est-ce que tu vas nous présenter cette poésie contemporaine ?
La chronique se veut être une introduction aux nouvelles voies de la poésie contemporaine. Il s'agit de mettre en valeur la jeune création poétique et de comprendre pourquoi il est encore essentiel, voire plus essentiel que jamais, pour la jeunesse aujourd'hui d'écrire de la poésie. Tous mes invités auront une réponse différente à cette question, car chacun d'entre eux pratique cet art d'une façon différente. Certains sur papier, d'autres exclusivement sur scène, d'autres encore en association, comme nous l'avons dit un petit peu plus tôt, avec d'autres disciplines artistiques. Certains écrivent depuis l'enfance, d'autres depuis peu, mais pour tous, la poésie reste un moyen d'expression essentiel. L'objectif de cette chronique serait aussi, en la centrant sur la jeune création poétique, d'encourager ceux qui hésiteraient à écrire, et ceux qui écrivent à réciter ou à publier.
Et alors justement, pour ta part, Mélina, on sait que tu récites, que tu publies souvent des poèmes. Quel a été pour toi l'élément déclencheur, ce qui t'a donné envie de le faire ?
Personnellement, j'écris depuis l'âge de 13 ans, donc ça fait 8 ans maintenant. Mais je n'ai rendu mes poèmes publics, entre guillemets, que depuis un an et demi environ. Et je pense qu'il y a ce temps nécessaire pour apprivoiser l'inconscient qui est la matière première du poème. Car pour ma part, et pour un certain nombre de poètes et poétesses avec lesquels j'ai pu parler, le poème découle toujours d'une pulsion et rarement d'une volonté d'écrire sur tel ou tel sujet.
Prendre le temps d'apprivoiser cette inconscience et prendre le temps de trouver son style d'écriture et par le même temps de rendre lisible l'intime, qui est la chair du poème, aux lecteurs et aux lectrices qui n'en font pas partie. C'est aussi prendre le temps de laisser vieillir le poème pour lui donner sens, car pour ma part, et là c'est un peu plus personnel, je ne comprends jamais mes poèmes au moment où je les écris, mais toujours au moment de la relecture. Ça peut être difficile de savoir à quel moment transmettre ses poèmes à quelqu'un d'autre que soi, surtout quand ça fait des années qu'on écrit. Alors avant de me lancer sur scène, je participais à des concours de poésie où j'envoyais mes textes à des revues pour mesurer la réception d'autrui à mes poèmes. La première fois qu'un de mes poèmes a été rendu public, c'était à la remise des prix du concours de poésie de la Sorbonne l'année dernière, en 2022. Et ça m'a donné énormément de confiance en moi. Il y a certes cette validation académique hein, qui est très réconfortante, effectivement, mais l'élément déclencheur de la suite de mes aventures poétiques, ça a surtout été de rencontrer des gens comme moi, jeunes, qui écrivaient de la poésie et qui, pour certains, vivaient pour elle. Échanger avec eux, ça m'a beaucoup inspirée, après avoir écrit seule pendant des années. Alors j'ai écrit deux fois plus, j'ai eu le courage de monter sur scène pour réciter mes poèmes, j'ai rencontré encore plus de poètes et de poétesses, j'ai écrit encore plus, etc., etc. La poésie contemporaine, c'est avant tout un art vivant. Ça veut aussi dire qu'il y a autour de lui une communauté. Et c'est en s'apercevant que c'est un art vivant qu'on a, à notre tour, envie de le faire vivre encore plus, au-delà de 4 minutes.
Exactement, c'est à partager sans modération comme la radio l'est. On te retrouve donc dans 2 semaines avec ton premier invité, l'hémophile, et puis toute l'année, donc tu nous parleras de poésie contemporaine dans Cours d'honneur. Ça fait toujours un peu de bien, un vaguère de New Order, le son cristallin de la New Wave qui revient en force dans Cours d'honneur. Ça s'appelle Walking Warriors et c'est de Hives. Hives, issu de leur premier album No Sense, No Feeling en 2019. Il est 20h40 sur Radio Campus Paris. Allez, on a du courrier.
À chaque fois qu'il revient, il m'apporte quelque chose. Il m'écrit.
Ah oui, les cartes postales.
La rentrée, c'est aussi la période des bonnes résolutions, on ne vous le dira jamais assez. Vous ne faites pas assez de sport autour de cette table, j'en suis sûr. Et pourtant, ça fait du bien. En plus, il y a plein d'activités gratuites qui sont proposées. Alors voilà, c'est Cilia qui, aujourd'hui, nous donne un cours de volley.
Voilà. Tu peux laisser tes affaires dans les vestiaires.
Ah bah voilà. On est parti les amis pour l'entraînement de hand. Bon là c'est les confirmés le jeudi. Enfin confirmés experts. On a toujours une bonne séance de 10-15 minutes d'échauffement. Donc c'est les échauffements de base, c'est courir, c'est faire des montées de genoux. C'est vraiment tout ce qui est l'échauffement des muscles, tout ce qui est pour le rythme cardiaque. Après on a une des séances d'exercice. Ça c'est le prof qui voit en fonction des besoins de ce qu'il décide de faire. Je sais que mardi c'était un criss-cross, donc c'est un travail sur les pas, ça peut être travailler sur tout ce qui est les placements. Ça dépend vraiment des entraînements, ça dépend des créneaux. Et à la moitié de la séance, on va dire, on part sur tout ce qui est les matchs, qui fait les équipes. Moi je suis gardienne. Et ouais, c'est à peu près tout. Et on joue jusqu'à la fin de la séance.
Allez, c'est parti! Talon de face, je reviens vite, genou poitrine, je reviens vite, pas chassé! Ricler, je reviens vite, pas chassé, opposé, je reviens vite, 2 allers-retours vite, ça fait 6 allers-retours vite. C'est parti. 5
on est dans le gymnase la Halle des Sports à Strasbourg. Là on est en train de s'entraîner, donc on fait des petits tournois on va dire. C'est divisé en deux terrains. Le terrain il y a deux comment on appelle ça, des buts ouais, avec une zone autour que les joueurs n'ont pas le droit de franchir. Et donc c'est deux équipes qui s'affrontent et voilà, le but c'est d'aller marquer dans le but d'en face.
Une balle pour deux s'il vous plaît, mettez quelqu'un de votre gabarit.
J'ai peur, je sens que je vais prendre extrêmement cher.
On prend une bonne balle parce que le match est de la merde.
Vas-y. J'ai perdu la balle.
Ah yes.
Pas mal, on va la refaire.
Ah bien. C'est là.
Carte postale de Cilia au cours de volley. Il y en a qui sont inscrits à des sports là autour de la table ? Allez, je suis sûr que personne ne fait de sport.
Oui.
Ouais. Ah, Abel, non, Lodine.
C'était juste pour te contredire.
Exactement, vas-y, dites-moi.
Non, bah non, du coup.
Ah, rien ?
Moi, je vais m'inscrire.
Pardon, est-ce qu'on peut tendre le micro à Lodine ?
Jamais le temps. Moi, je vais m'inscrire au foot.
Ah, ah bon ?
Ouais.
Énorme.
Ouais, on dirait pas comme ça, mais
j'ai une grosse bille en foot, donc.
Ça. À quel campus?
À Clignancourt.
Ah bah oui, forcément.
En fait, j'en ai jamais fait et du coup depuis petite, c'est un truc qui me tente
bah ouais,
beaucoup.
Trop bien.
Et j'ai envoyé un mail au monsieur qui s'en occupe en disant bon, je débute, est-ce que je peux venir? Il m'a dit, pas de problème, viens.
Voilà, la future Mbappé, en fait, elle est chez nous, hein, oui. La Mbappé de Sorbonne Université.
Project, il est là.
Eh, mais tu rigoles, mais petite, j'avais été repérée par un entraîneur. Hein.
Excellent, Wendy Renard, en fait, c'est ça.
Ouais, ouais. Mais
elle
j'ai
a raté
fait de la danse
chose.
Toute ma vie.
D'accord. Voilà. Un autre type de pied, un autre usage des pieds.
Ouais.
Marine, le foot, ça te tente ?
Pourquoi pas ? Après, si je suis vraiment honnête, moi je suis plus solitaire, c'est je cours avec mon casque, je parle pas...
Ouais, je t'ai vu une fois courir sur le faubourg Saint-Antoine, là. Je suis sûr que. Toute seule, non, c'est pas toi ?
Ah, ça aurait pu.
Ça aurait pu. Bah, c'était il y a longtemps, peut-être la dernière fois que tu l'as fait. Non, Abel, de temps en temps, tu vas.
Non, j'ai fait beaucoup de sport, mais c'est la première. Non, l'année dernière aussi. Si, j'en ai fait l'année dernière, pardon. Mais genre, c'est la première année où j'en fais pas, parce que. Enfin, j'en ai jamais fait à la fac, j'en ai toujours fait en dehors. Et là, je sais pas, je me suis pas réinscrit. Peut-être que je ferai des trucs cette année. Après, les sports que je faisais, c'était soit de l'escalade, donc c'est dans des salles d'escalade, donc en fait, tu y vas quand tu veux, c'est à la carte, ou à la salle, et c'est pareil, donc c'est pas un truc régulier, t'as pas un prof qui est là pour que tu viennes, donc c'est dur de suivre aussi.
Toi, Mélina, si on te t'impose pas avec un prof ou une équipe
Alors, moi, le sport, ça doit faire quelques années que j'en ai pas fait, c'est pas bien de le dire, mais je suis vraiment le pire cliché de l'étudiante en lettres qui ne fait pas de sport et qui lit des livres, donc malheureusement, je pense pas que c'est cette année que ça va commencer.
Terrible, pourtant moi, c'est le conseil, parce qu'on m'a pas demandé moi ce que je donnerais comme conseil aux petits jeunes qui font leur rentrée.
Et toi, Thomas, t'as un conseil aux petits
jeunes ? Faites du sport, c'est le seul truc qui compte en fait pour se faire du bien dans la tête, sentir bien dans son corps, avoir la maîtrise.
Tu fais du sport, Thomas ?
Ouais, je vais courir tous les dimanches, je suis très très bon en roller.
Toi aussi, t'es un coureur.
Ah, grave, bah, c'est pour ça que je t'ai croisé. Non, mais j'ai fait du hockey
dimanche
pendant 10 ans.
Dimanche, j'enseigne 8 heures.
Tu fais du roller, du coup.
Check. Mais vraiment,
mais
moi j'y vais, je fais 10 km.
Mais, mais moi aussi, j'ai fait le semi de Paris.
Eh ben voilà. Eh ben,
on
c'est
veut
bon.
Une carte postale, par contre.
Ouais, carrément. On fait la carte postale tous les deux. Oui. On s'enregistre en courant pour la prochaine émission. Mais grave, carrément. Ouais. Non, après, moi, le sport qui me fait kiffer, c'est le roller. J'ai fait du hockey pendant 10 ans sur roller.
C'est bien.
Du coup, je suis pas mal en roller. Mais voilà, c'est le bon conseil. Maîtriser son corps et son évolution dans l'espace, ça permet de mieux maîtriser ce qui se passe aussi dans les recoins de notre cerveau. Vous suivez la Coupe du monde de rugby ?
Oui.
Ouais ? On en est où là d'ailleurs des matchs ?
Ce soir, il y a un Uruguay-Italie.
Ouais, Lodine, non ? Ouais, mais moi, la Coupe du monde de quoi ?
Moi, plus foot. Hein, rugby.
Moi, j'ai juste suivi l'espèce de petit looping de Jean Dujardin là, quand il était déguisé en coq.
Ah,
oui. Ça, j'ai suivi.
Sacré événement. Bon, bah. Vous suivez peut-être la Coupe du monde de rugby, vous pensez parfois que les arbitres sont vendus. Eh bien, vous n'avez peut-être pas tort. On accueille notre deuxième invité.
Aujourd'hui, c'est avec Thibaut Martinez Delquerou, ancien rugbyman de l'équipe de la Sorbonne, journaliste sportif à Canal+, et écrivain. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Alors, merci déjà de nous accorder une interview aujourd'hui.
Je suis trop content de revenir à la Sorbonne.
Voilà, très bien.
Merci beaucoup pour l'invitation.
Donc, évidemment, vous l'aurez compris, en cette pleine Coupe du Monde de rugby qu'on fait à la maison cette année, il était logique de pouvoir t'interviewer, toi qui as été dans l'équipe universitaire de la Sorbonne. Uh-huh. Vous aviez un petit nom, un petit...
Non.
C'était pas un petit un surnom.
On a essayé 15 P4, mais au final c'était la Sorbonne et la seule question qu'on nous posait quand on disait je suis à l'équipe de la Sorbonne, c'était Paris 1 ou Paris 4 et voilà, on précisait, mais on n'avait pas un nom de guerrier.
Pas un AK.
On avait quelques repères, quelques barres, et puis quelques victoires.
Oui.
Mais voilà.
Ok. Et donc voilà, et puis tu as aussi sorti un livre qui s'appelle Faute en 2022 qui retrace les coulisses des plus grandes polémiques arbitrales de ces dernières années, mais pas que au rugby, hein, ça c'est sur plusieurs sports, on va en parler. Mais d'abord là, la Coupe du Monde à la maison, comment tu, toi en tant que déjà journaliste à Canal+, passionné de rugby, comment tu l'abordes? Elle te plaît? T'as des espoirs, des faux espoirs?
Il y a un avantage, c'est qu'on n'est pas les seuls favoris.
Oui.
Il y a 4 équipes qui sont favorites. Il y a la France, l'Irlande pour l'hémisphère nord, et puis l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande pour l'hémisphère sud. Donc ça, c'est un avantage. Parce que le pire, quand tu joues à domicile, c'est d'être quasi le seul favori. Un peu comme, je pense, à la Nouvelle-Zélande en 2011. Ils arrivent à gagner le titre, mais tu sens sur la finale qu'il y a une pression gigantesque, oui, sur leurs épaules. pareil pour l'Afrique du Sud en 95.
C'était spécial en plus en 95.
C'était spécial. Et le pire de tout ça, c'était l'Angleterre en 2015, qui joue chez elle, qui est éliminée des phases de poule, parce qu'elle fait partie des favoris à ce moment-là, mais ne supporte pas la pression à domicile. Je trouve que pour l'instant, la pression à domicile ne pèse pas trop sur l'équipe de France. Et ce qui est sympa mais pénible avec ces 4 favoris, c'est qu'ils vont tous se croiser en quart de finale, donc il y a, oui, directement 2 favoris qui vont sauter. Donc ça
laissera de la place pour des outsiders, c'est bien aussi.
Mais c'est ça, pour les outsiders de la poule C et D, tu penses à l'Angleterre, au Pays de Galles, des équipes qui étaient un peu down dernièrement et qui auront une carte à jouer si tu fais des pronostics. En tout cas, quand j'ai fait des pronostics avec mon petit stylo et ma petite feuille de papier, je me suis rendu compte que rationnellement, l'équipe qui terminera 3e, donc avec quand même la médaille de bronze, sera objectivement moins forte qu'un des 4 favoris qui aura sauté en
quart de finale. Ouais, mais qui aura sauté sur un gros match.
C'est ce qu'on peut regretter un peu sur cette Coupe du Monde, que ce soit pas un peu plus équilibré au niveau du tableau, mais ça donnera quand même des sacrés matchs.
Ok. Bon, alors évidemment, il faut qu'on pose une question, mais ça c'est la classique. Tu vois quoi en finale, le match en finale?
Je vois un France-Afrique du Sud avec, okay, une victoire de l'Afrique du Sud. Alors je parle encore une fois rationnellement, mais je vois pas qui peut bouger.
Tu vois la France perdre en finale?
Je ne l'espère pas.
Hein. Attention, oui, bah non, mais évidemment.
Je souhaite me tromper absolument, mais dans ce que je vois de l'Afrique du Sud, ouais, c'est
vrai qu'ils sont bons.
C'est impressionnant et c'est. En fait, ils ont gardé 2/3 de leur équipe qui a été championne du monde en 2019. Et ils ont encore évolué, adapté leur style de jeu avec encore plus de vitesse et de ballons portés. Et voilà. Pour moi, c'est la même puissance qu'en 2019 quand ils ont été champions du monde avec encore plus de vitesse.
Ok. Alors pour passer, maintenant qu'on a bien parlé de la Coupe du Monde, pour passer aussi maintenant à toi qui a fait du rugby, t'en as même fait ton métier. Moi, je me rappelle à la fin de ce... Pour faire un lien avec la Coupe du Monde, à la fin du match d'ouverture, il y a donc Antoine Dupont, le capitaine de l'équipe de France, qui, au micro d'un journaliste, dit qu'il appelle les jeunes... S'ils cherchent quelque chose à faire dans leur vie, s'ils cherchent une vocation, quelque chose pour se construire, de jouer au rugby parce que ça peut inculquer des valeurs de camaraderie, d'engagement, de beaucoup de choses comme ça. Est-ce que toi, nous qui parlons à des jeunes qui peut-être se cherchent encore, cherchent des choses à faire dans leur vie, est-ce que toi tu conseilles le rugby et tu es d'accord avec Antoine Dupont en disant que le rugby c'est vraiment en plus des transports, c'est quelque chose qui va t'apporter quelque chose dans ta vie personnelle pour te construire?
Alors j'avais l'impression jusqu'à avant-hier que cette phrase-là était un peu un cliché, que oh, le rugby a la camaraderie, on s'entend bien, tout ça, parce que je ne m'en rendais plus compte à quel point c'était vrai. Pour l'anecdote extrêmement personnelle, je me suis mis à la boxe en plus du rugby avant-hier. Alors, super court, j'adorais apprendre des nouvelles choses. Par contre, quand tu es dans le vestiaire, avant et après, il n'y a pas un mot. Là où au rugby, un mec qui va faire son premier entraînement, même s'il a 28 ans ou 32 ans, il va être accueilli. Mais dans toutes les équipes dans lesquelles j'ai joué, ça a été ça. Je viens du Sud-Ouest et quand je suis arrivé à Paris, je connaissais personne. Je suis arrivé à Rueil-Malmaison, là où s'entraîne l'équipe de France d'ailleurs. Je connaissais personne. J'ai fait mon premier entraînement et j'ai connu 50 personnes directes avant de connaître du monde au lycée quand je suis arrivé. Pareil à la Sorbonne. Pareil quand je suis parti en école de journalisme à Strasbourg. Je me suis même retrouvé en alternance à Besançon, là où vraiment tu connais personne de chez personne, mais il y a quand même du rugby. Et donc directement, rugby, donc soirée, donc rencontre, donc discussion, pas que sur le rugby. Bref, c'est incroyable.
C'est bien, c'est, en plus d'un sport, ça ouvre des choses, des perspectives. Ça...
Je sais pas si c'est propre au rugby, mais c'est vrai que.
Au sport d'équipe, parce que. La boxe, c'est un sport et pourtant...
C'est un sport individuel. Je pense que dans beaucoup d'équipes, tu vas rencontrer des gens. Mais c'est vrai qu'au rugby, tu as ce côté très terre-à-terre. Et en plus, tu en baves ensemble sur le terrain, que ce soit sur le physique ou sur les impacts. Tu as ce côté aussi où tu es obligé de communiquer sans cesse. Si tu fais un entraînement de 2 heures, tu vas faire quasiment que parler. Parce que si tu ne parles pas à tes coéquipiers, si tu perds, c'est que tu crées une brèche et qu'il n'y a personne avec toi, t'es dans la merde tout simplement. Donc en fait, tu fais que parler. Et ce qui fait que tu crées très très vite des relations.
C'est un créateur de liens.
Mais c'est vraiment puissant. C'est à tester. Et il faut rappeler qu'il y en a pour tous les gabarits, pour tous les âges. Et que c'est vraiment chouette. Moi, je me suis toujours senti inclus.
C'est un appel donc de notre invité à aller faire du rugby, surtout qu'il y a une superbe équipe à la Sorbonne quand même. Pour parler un peu de ton livre, c'est un livre qui résume, comme on l'a dit, des scandales, les coulisses, des polémiques arbitrales, donc ça peut être des erreurs d'arbitrage, mais aussi d'autres choses, comme je vous invite à vous y intéresser. Mais tu m'as dit que tu avais à la base sélectionné beaucoup plus d'histoires que ce que tu as dans ton livre. Est-ce que tu en as en tête dès que tu as dû supprimer, mais à contre-cœur presque, que tu les trouvais vraiment cool et...
Moi, l'objectif, c'était quand même de sortir une série d'enquêtes, pas juste une série de récits, parce que les récits, à titre personnel, ça m'ennuie. Moi, je préfère voir des films que lire. Lire, c'est une vraie démarche, donc j'ai envie d'apprendre des choses. Donc j'avais envie d'apprendre des choses aux gens. Et je me souviens que quand je me mets à faire ce livre et que je suis dans mon salon, j'ai 25 ou 30 idées à force de chercher. Et il y en a que je dégage très facilement parce que j'aurais pas d'interlocuteur pour m'apporter des nouvelles choses. Ou alors je pensais, par exemple, à la main de Maradona, je me suis dit, ça serait quelque chose de fou d'apprendre quelque chose aux gens. Donc j'ai commencé à gratter, à chercher par-ci, par-là. Maradona meurt. Et là, il y a l'arbitre qui avait accordé son but, qui est un Tunisien, qui est sollicité par les médias du monde entier.
Pour l'avoir, c'est compliqué.
Non, mais c'est même pas tant pour l'avoir, c'est qu'il n'y avait plus d'intérêt à l'avoir vu qu'il racontait, il racontait sa version. La main de Thierry Henry, je me suis dit, est-ce que j'arriverai à apporter quelque chose de plus sur le côté peut-être harcèlement que l'arbitre a subi après, je sais pas. Et finalement, c'était pas possible de le contacter, donc je l'ai dégagé. Je m'en foutais de raconter comment la main en tant que telle.
Oui, bien sûr, en plus tout le monde le sait, tout le monde connaît, on a les images. C'est ça. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que tu te rends compte que au travers de ces polémiques arbitrales, il n'y a pas que le sport qui compte, ni les erreurs d'arbitrage précises.
Dans le livre, ça parle quasiment pas de sport, ça parle beaucoup géopolitique, ça parle trafic de drogue, ça parle mafia, ça parle de tout, harcèlement, d'isolement aussi. C'est des vraies histoires d'êtres humains, tout simplement, qui sont des êtres sensibles, qui sont des êtres corruptibles à un certain degré, qui sont des êtres honnêtes, mais pris par, des événements, des conditions qui font qu'on en arrive à des polémiques qui ont des impacts très souvent dans ce livre géopolitique.
C'est faute aux éditions Hugo Sport. Pour clôturer cette interview, je vais te poser une question qu'on pose à tous les invités qu'on reçoit ici.
Okay.
C'est une question très générale, mais inspirante aussi. C'est qu'est-ce que représente la Sorbonne pour toi ?
La Sorbonne, c'est les plus belles années de ta vie. Parce que tu sens que tu es dans un lieu déjà qui te stimule quand tu arrives à la Sorbonne, rien que le nom, je sais pas. Ouais. Pour moi, ça te met pas les frissons, mais tu te dis, ok, je suis pas n'importe où. Quand tu penses à tous les grands scientifiques, tous les grands historiens qui ont été formés ici, c'est formidable de te dire, ok, moi aussi. Et puis, c'est le bonheur à partir du moment où tu sais prendre tout le positif que la Sorbonne et globalement les facultés peuvent te donner avec les associations, avec les équipes, avec mes coéquipiers, par exemple, de l'équipe de rugby à la Sorbonne. On se disait vraiment, on a la sensation d'être à la Sorbonne rugby avec option histoire, tellement on passait notre temps ensemble. Et en plus, on allait à des cours et on validait une licence. Ça, c'était cool. Mais le plus important, c'est vraiment les rencontres que tu fais.
Ok. Et bah, merci beaucoup en tout cas.
Merci beaucoup.
Faites du rugby. Voilà. Amusez-vous, rencontrez du monde et lisez Faute aux éditions Hugo Sport. C'est très intéressant.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Merci, beaucoup.
Merci Thibaut Martinez d'Elkérou. Vous êtes bien sur Cours d'honneur sur Radio Campus Paris. C'est l'heure de la chronique des brouilles, la pastille info de RSU.
C'est une fabrication artisanale. C'est fait à la main, c'est roulé à la main sous les aisselles.
Allez la vedette, à table!
D'un thé de la Sorbonne pour vous défouler, soyez plus inventifs que cela. Vous écoutez RSU tout de même. La mairie de Paris vous offre un cadeau bien spécial, Juliette.
Et non, Valérie Pécresse, elle n'a pas fait baisser le prix du pass Navigo, mais elle vous propose un autre pass à la place, tout de même, le pass jeune. Si vous avez du mal à définir la frontière entre être jeune et être vieux, attention, partez, parce que vous allez être blessé dans votre âme. Ce bon plan, il est réservé aux moins de 25 ans. Et non, pas de pass vieux pour les plus de 26, vous excuserez la mairie de Paris. Cependant, ce pass jeune, c'est du pain béni pour tous les 14-25 ans ayant un lien avec Paris. Ce pass sous forme de petit chéquier vous donne accès à des centaines d'activités gratuites ou à des prix réduits. Musée, cinéma, exposition, sport et loisirs olympiques. Et sachez que je pèse mes mots en utilisant une centaine, car vous pouvez y retrouver des façons de s'amuser que vous n'aurez jamais imaginé auparavant, comme une session de beach tennis, du hip-hop, du skateboard ou encore du téléski nautique. Vous pouvez même en faire profiter une personne de votre entourage avec des places, une entrée gratuite, plus un accompagnateur. Ce pass, il est composé de 40 coupons valables jusqu'au 31 mai 2024. Vous pouvez vous le procurer en passant par le site de la mairie de Paris et le réserver dans un des points retrait du pass jeune, dont un se situe au QG dans le 1er arrondissement. Ne me remerciez pas. Vous aurez donc 8 jours pour aller le récupérer, ce qui est largement assez pour que tous les petits et petites flemmardes de cette université ne trouvent pas d'excuses pour y aller. Mon petit préféré, c'est quand même les 6 places gratuites pour les piscines parisiennes. Ça fait une journée de détente pour toute la famille ou vos amis banlieusards.
Merci Juliette. Bon, bah ça y est, c'est la fin de Cours d'honneur, saison 3, épisode 1. Merci, ça va la reprise ? Petite reprise en jambouée autour de la table.
Oui. Très bien.
Ouais, ça va.
On est chaud pour cette année ? Merci beaucoup en tout cas d'avoir participé à cette émission. Merci Abel, merci Marine, merci Lodine, merci Mélina. Merci également à Juliette et Cilia pour leur carte postale et leur chronique débrouille. Merci au service culturel pour son soutien. Alors on se retrouve dans 2 semaines, puisque oui, désormais c'est la bonne nouvelle de la saison. Cours d'honneur passe en mode bimensuel, un épisode toutes les 2 semaines. Alors venez, vous êtes là dans 2 semaines vous autour de la table ?
Oui.
Ah mais bien sûr Thomas.
Évidemment.
Et ben voilà, mais quel enthousiasme. Merci beaucoup. D'ici là, restez curieux et surtout n'oubliez pas, tout est possible. Ciao.
Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment retourner à l'université.
J'ai pas réussi à rendre tous les DM.
Moi, je suis vite distraite.
T'as rien oublié. Effaceur, Tipex, ton goûter, t'as ton goûter.
C'est-à-dire que le plus beau cadeau qui nous a été fait depuis qu'on est petit, c'est...
La cour d'honneur.
J'ai aussi écrit un courrier au président de la République, parce qu'on sait jamais. Hein.
Ça va tout changer, parce qu'en plus, j'habite à Paris. J'attends, est-ce qu'il y aura un autre confinement, est-ce que je vais pouvoir travailler.
90% du temps était voilà, dans sa chambre, sur son lit. Où,
J'ai foulé le sol de la cour d'honneur pour la première fois. J'ai pas été impressionnée.
S'il tressaille, on frissonne.